Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et voilà, bonjour, re-bienvenue à cet univers chorégraphique qui nous rend heureux et heureuses, qui nous donne plein de bonnes choses pour pouvoir continuer à bouger et à vivre de façon intense. Nous sommes dans cette deuxième partie avec toujours Fabrice Minon, professeur du studio Skouratov, un studio à Montpellier qui a fait le plaisir de beaucoup de professionnels dans la danse classique. Et donc, bonjour Fabrice, bonjour. À nouveau.
Bonjour.
Et il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup de votre vie, parce que vous êtes avec votre épouse ouais. Dans l'amour, mais aussi dans le travail.
Oui.
Comment ça se passe, cette relation qui a duré si longtemps dans les deux aspects?
Alors, oui, on s'est connus forcément comme beaucoup de gens sur un lieu de travail.
Oui,
on s'est rencontrés au ballet de Bordeaux à l'époque.
Ok, oui, vous l'avez dit.
Fabienne y était déjà depuis 2 ans, puis moi j'ai passé l'audition. Et j'arrivais d'Avignon et juste avant de l'Opéra de Lille. Et puis on s'est rencontrés et puis on s'est fiancés dans l'année et se mariés 2 ans après.
C'est qui a demandé qui?
Pardon?
C'est qui a demandé à qui?
Alors ça, c'est une bonne question. je crois qu'on ne s'est rien demandé, ça s'est fait tout seul.
Tout seul, oui, de façon intuitive.
Oui, complètement. Mais de toute façon, on travaille beaucoup comme ça aussi. Donc on est deux à donner les cours. Bon, on a dansé ensemble beaucoup. On a connu bien sûr les mêmes chorégraphes sur cette période-là. Encore une fois, la chance d'avoir deux personnages importants du milieu de la danse. Skouratov, ex-danseur étoile du ballet du Marquis de Cuevas. C'est pour cela que l'école s'appelle l'école Vladimir Skouratov, en hommage. Et on a deux salles de classe, et la grande salle s'appelle salle Paolo Bortoluzzi, pour rendre aussi hommage au deuxième chorégraphe qui nous a marqué, Paolo, qui était un des grands danseurs du ballet du XXe siècle de Béjart, un des tout premiers. Voilà, et puis à l'international exceptionnel, quoi. Voilà.
Et j'ai vu aussi qu'il y avait Serge Liffard quelque part.
Ah ben Serge Liffard, c'est la génération de Skouratov. Skouratov a créé des œuvres de Serge Liffard, mais s'il n'a pas tout créé, il a créé une bonne partie avec Yvette Chauviré, Jeannie Tchara et d'autres de l'époque. Cet immense ballet du Marquis de Cuevas.
Moi, j'encontre le nom de Serge Liffard avec un livre qui s'appelle Le livre de la danse. Mm-hmm. C'est un vieux bouquin qui m'a beaucoup plu parce que ça m'a. Nous, ma génération.
Oui, Serge Lido.
On n'a pas pu connaître photos, ce que vous avez eu la chance de connaître.
Ah, mais je n'ai pas connu Liffard quand même. Hein.
Non, mais d'avoir connu une transmission
oui,
qui vient
bien sûr, bien sûr,
un
bien
peu
sûr.
Plus proche que.
Ah, mais c'est l'histoire de cette période de la danse classique, bien sûr. Comme Paolo est une autre période de l'histoire de la danse aussi.
Parce qu'il y a la parole et l'oral dans l'enseignement de la danse, en particulier, pas le théâtre, mais dans la danse, c'est très... Ça a une importance, c'est incroyable, parce que c'est que le mouvement.
Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que tous les danseurs, dont Vladimir Skouratov, ils ont créé des ballets. Et la grande difficulté qu'avait Vladimir, mais presque à en pleurer, c'est qu'il ne pouvait plus remonter des pièces. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la vidéo.
D'accord.
Et c'était
le retravailler.
Voilà, c'était l'oral. Il racontait ce qu'il y avait. Et parfois, le pauvre, il voulait refaire des ballets comme Piège de lumière et tout ça. Et quelques autres, bien évidemment, plein d'autres. Et c'était plus possible parce qu'il n'y avait pas de support. Il n'y avait que des dessins de l'époque, oui. Magnifiques. Oui. Les fameux décors, voilà, dans les anciens, les vieux programmes de danse, tout ça. Mais il n'y avait pas de vidéo. Pour vous donner une idée, je ne veux pas dire mon âge, mais la vidéo, les ballets filmés, ont commencé quand j'ai commencé, moi, à être professionnel. Hein. Oui. Sinon, ça n'existait pas. Les spectacles étaient filmés qu'à ce moment-là.
Très tard, oui.
Dans les années 80, début voilà, des années 80, il n'y avait pas de vidéo. Ça commence maintenant. Et donc, toute cette génération de danseurs a, entre guillemets, pleuré le fait de ne pas pouvoir transmettre. Alors, il nous raconte les anecdotes, les machins, tout ça. Un autre danseur, toujours là, professeur régulièrement invité à nos stages, Cyril Atalazov, est lui aussi un puits d'histoire de la danse. C'est un plaisir, quoi. Oui, mais ils aiment bien, mais parce qu'ils aiment, tout ça parce qu'ils ont, ils n'avaient pas ce support de la vidéo.
Mais je pense que c'est dans la nature même de la danse, cette obligation de la parole. C'est-à-dire que ça passe aussi à travers, à travers la façon comment on l'adresse, comment on l'explique, et ce que ça signifie pour chaque chorégraphe. C'est incroyable. Il y a des détails et des détails.
Oui, mais pas oublier aussi que quand on danse, on ne parle pas. Hein. Quand il y a des ballets avec des histoires, c'est juste. C'est pour ça qu'il faut être excellent comédien aussi. C'est proche du mime, mais ce n'est pas du mime, parce que le mime, c'est encore autre chose.
C'est autre chose, ouais.
C'est ça qui est extraordinaire dans cet art. Et arriver à transmettre des émotions sans parler, c'est pas mal quand même.
Ouais, c'est dur.
Mais faire rire aussi, c'est pas mal. Hein, on croit que
faire rire, c'est extrêmement difficile. Je trouve que c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire.
Oui, bien sûr, bien évidemment. Bien sûr.
C'est tout un travail, bien évidemment. Et alors, racontez-nous d'autres anecdotes. Vous avez plein de choses. Je vais pas parler, moi.
Avec Fabienne, on parlait de mon épouse. On s'était dit qu'on ne voulait pas être, entre guillemets, des vieux danseurs. Donc, on avait un petit peu planifié le fait de s'arrêter parce qu'on a toujours pensé que la danse, c'est pour les jeunes. Il faut des jeunes danseurs. À mon époque... on pouvait commencer à danser professionnellement à 18 ans, parfois un peu plus tôt, mais c'était un peu jeune quand même, 18 ans et au-delà. Maintenant, pour des jeunes qui veulent être danseurs, c'est plutôt 25, 26. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un peu dommage parce que c'est quand même une activité où il faut être jeune. Et donc, on s'était dit, on ne veut pas faire vieux danseurs sur scène. Voilà, c'est un principe. Donc, on a tenu à ce principe. Ce n'était pas si évident que ça de s'arrêter.
Oui, j'imagine.
Voilà, on s'est arrêté. On a eu notre fille un petit peu avant, Morgane. Et on s'est dit, bon, avec Paolo, les tournées allaient commencer à être importantes. On s'est dit, il faut faire des choix.
Oui.
Donc, on s'est arrêté à ce moment-là. Et parallèlement, donc, on commençait à donner des cours sur la banlieue bordelaise pour voir si on aimait ça, parce qu'on ne peut pas s'intituler prof de danse parce qu'on a été danseur. Il faut avoir le goût et on a tout de suite aimé ça. Donc le test a été plutôt positif et mon épouse était étant de Montpellier, de Bordeaux, on a déménagé à Montpellier et puis on a ouvert l'école de danse un an après qu'on soit arrivé.
D'accord.
Voilà.
Moi, j'ai rencontré votre épouse en sortant d'un cours de danse dans votre studio avec prof
De jazz.
De jazz. Jérôme. Et je me suis approché d'elle parce que j'avais beaucoup de mystères. Parce que c'est une dame qui inspire beaucoup de tranquillité, mais qu'on voit très bien qu'il y a tout un porté dans sa façon de présenter son corps, ses épaules, sa tête. Donc j'étais très timide, mais je me suis quand même adressé à elle. Je me souviens plus ce que j'ai posé comme question parce que j'étais trop nerveux.
Elle s'en souvient.
Et voilà. Ça serait bien un jour de l'inviter à venir. Oui. Mais c'était une rencontre assez, comme vous dites, mystérieuse parce qu'on sait qu'on aime ça. Je viens d'un monde extrêmement différent. Je n'ai jamais fait du classique. Je n'ai jamais été élevé dans ces milieux. Mais bien évidemment, en tant que spectateur, on est toujours un peu ébloui par rapport à tous ces travaux, tous ces sacrifices qui est derrière et qui ne se dit pas, qui est très silencieux.
Oui, ouais, enfin moi j'aime pas le mot sacrifice parce que ça, fait, ça veut dire oui.
Moi j'ai une vision peut-être trop classique alors.
On a l'usure du temps, on a des blessures entre guillemets, mais encore une fois, comme des sportifs de haut niveau, mais on sait pourquoi on l'a fait. J'ai mal aux pieds maintenant, j'aurai mal aux pieds jusqu'au bout, mais j'ai dansé.
C'est dansé.
Voilà. Après.
Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Fabrice, de faire une toute petite légère pause musicale, et on revient avec vous tout de suite. Bercé avec ces notes musicales de Béla Bartók, nous continuons avec notre grand Fabrice Minon, prof d'Escuratov, et qui est en train de nous raconter plein des histoires, des vieilles histoires. J'ai envie de poser la question par rapport au milieu montpelliérain de la danse. Et vous en pensez quoi? Vous les vivez comment? Est-ce que la concurrence est difficile ou pas difficile? Est-ce qu'il existe une...
Alors, d'abord, la concurrence, sincèrement, ça fait 30 ans qu'on est là. Quand on s'est installé, on a bien fait savoir qu'on faisait de la danse classique, mais c'était fait un peu exprès parce qu'on savait très bien que Montpellier... Et c'est très bien, est une ville très fortement axée sur la danse contemporaine, Montpellier danse, tout ça, très bien. Et aucun problème avec ça. Donc on a un peu poussé sur le fait qu'effectivement c'était de la danse classique. Même le premier spectacle, ça c'était un petit peu un clin d'œil, le premier spectacle qu'a fait le Jeune Ballet à l'Opéra Comédie, on sous-titrait « Ça, c'est de ma faute ». Ça dépend où on se place. L'affiche, le spectacle, la date, et on mettait en bas « Danse classique à Montpellier ».
D'accord.
Bien sûr, il y avait un petit clin d'œil.
Clin d'œil, voilà, une distinction, une singularité.
Voilà, c'était pour bien montrer ça. Et puis après non, la concurrence, c'est normal qu'il y ait la concurrence comme dans tous les corps de métier, mais on avait cette spécificité très classique, on l'a toujours d'ailleurs, et ça fait 30 ans, après, oui, la force qu'on a, on revient sur le couple, c'est qu'on est un couple.
Oui.
Je peux vous dire qu'en 30 ans, on ne s'est jamais dit « Mais pourquoi tu fais ça? Tu devrais faire ça pendant les cours? Mais qu'est-ce qui t'a pris ?» Non, pas du tout. On ne parle même pas. On parle des élèves, on parle des élèves et on parle des élèves. Et après... pour le reste, pour nos cours, on fait ce qu'on a à faire. Et je crois que la richesse de nos petits qui réussissent, c'est qu'ils ont eu deux profs différents. Et c'est un couple. Et c'est le couple, c'est notre force, effectivement.
D'accord.
Voilà. Donc, et puis l'école, même s'il y a d'autres disciplines, ce sont des gens qui viennent... qui loue les salles, parce qu'il y a deux salles, comme Jérôme, comme on en parlait tout à l'heure.
Profs, ouais.
Mais on ne fait pas classique, claquette, morphomodeling, machin, truc, déjà, voilà. La spécificité.
Oui.
La spécialisation, classique.
La spécialisation.
Après, ça n'empêche pas, quand les gens grandissent, dans le cadre du Jeune Ballet de Montpellier de l'Hérault, de faire venir des chorégraphes pour faire des pièces... néoclassique souvent, voilà, comme Giuseppe Della Monica, ballet de Trieste, Marc Ribot, qui était directeur du ballet de Nice et qui est maintenant en Allemagne aussi, entre autres. Là aussi, je veux citer, mais j'oublie la moitié, c'est énervant.
C'est normal, voilà. Non, mais c'est normal d'oublier et d'en oublier.
Voilà.
On oublie, mais on se rappelle. Et c'est assez souvent que l'Allemagne revient dans le monde de la danse. Elle est très active, l'Allemagne, en termes de...
Eh oui. De... alors ça, c'est beaucoup plus bas. C'est que beaucoup de théâtres en France ont fermé depuis un bon moment.
Oui.
Et c'était des théâtres où il y avait des ballets, simplement. Alors,
oui.
Des ballets. Souvent, ces théâtres étaient... les danseurs dansaient pour les opérettes et les opéras, quelques ballets et tout, mais donc tout ça, ça a été un peu supprimé, beaucoup ont été supprimés, et on a gardé, il y avait un ballet à Montpellier, hein, dans le cadre de l'opéra à l'époque, il n'y a plus de ballet depuis très très longtemps, non. Après, ça fait, je pense, un petit peu de tort, alors qu'en Allemagne, beaucoup de théâtres sont restés avec des ballets. Et en Suisse aussi, mais bon, la Suisse est un petit peu différent peut-être au niveau du volume d'habitants.
De la production, et aussi la production.
Et voilà, il reste des théâtres avec des ballets, il en reste peu. Donc, beaucoup de danseurs français, c'est comme le foot, hein. C'est pareil, ils sont moins payés, mais c'est pareil, ils vont à l'étranger, beaucoup en Allemagne, oui, bien sûr.
Oui, nous avons déjà une chorégraphe qui nous avait parlé de ça, de sa relation avec l'Allemagne, de la production. Bah,
la dernière jeune fille qu'on a fait, Anna Elja Demdalal, elle est en Allemagne. Alors qu'elle
qui est là, dans la petite affiche que vous m'avez montrée.
Non, ça c'est Elisa Mestre qui est en Allemagne, mais qui était Mestre. Bien avant.
Avant
ça, c'était une des premières qui est partie très loin, très haut, mais dans le sens de la hauteur. Elle n'est pas très loin, bien sûr.
On parlait d'un flyer et d'une image qui est dans les flyers.
Oui,
et,
c'est Elisa Mestre.
Et donc c'est la danseuse qui fait
développer seconde.
Un développé en seconde, mais elle est sur une caisse. Une caisse qui.
Oui.
Je trouve ça assez pertinent parce que ça montre la nouveauté les classiques.
Oui. Ah ben ça, c'est, je le dirai à mon beau-frère parce que c'est lui qui a fait la photo.
Ah d'accord. Voilà.
Monsieur Delorme.
Delorme. Bon, en 30 ans, il y a encore beaucoup plus d'anecdotes. Moi, j'ai envie d'entendre les anecdotes. Il y a beaucoup d'anecdotes.
Ah oui.
Des choses peut-être drôles qui se sont passées entre vous deux ou... Où il y a les studios aussi qui nous...
Ah, voilà, mon Dieu.
Je sais que je vous fais je vous oblige à faire un effort de mémoire, mais...
des mais anecdotes.
Cet exercice est intéressant.
C'est tellement vaste, j'ai pas... Là, prenez un peu de cours pour vous sortir une anecdote bien précise. Et en tant que professionnel et au niveau de l'école. Mais c'est... L'école, c'est une vie, ce ne sont pas des studios. Là, on a encore eu, c'est une anecdote, mais on a régulièrement des gens qui ont démarré chez nous. Certaines ont eu des enfants et tout. Certaines étaient dans le jeune ballet. Celles-ci sont parties. C'est une vie professionnelle, encore une fois, très souvent liée au spectacle. Mais encore hier, on avait une jeune femme qui est venue prendre un cours. Ça fait 10 ans qu'on ne l'avait pas vue. Il y a une espèce de côté, un petit retour entre guillemets à la maison, maison de la danse.
Maison de la danse.
Voilà. Parce que justement, elles ont eu plein d'histoires quand on partait à droite, à gauche. Et comme on continue d'ailleurs à partir à droite et à gauche. Je vous donnerai quelques dates vous voulez voir le jeune ballet.
Et est-ce que pour vous, dans toute cette période de transmission, d'enseignement, il y a quelque chose de spirituel à l'intérieur du mouvement corporel, de ce que vous enseignez aux élèves? Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà qui va dans un sens un peu plus intime pour les élèves?
Ça, c'est indicible.
Parce qu'il y a quand même des figures, il y a quand même des images très précises de ce qu'on fait, cette élévation, ou dans tous les ballets, il y a quand même il y a beaucoup de notions sur ça.
Oui, mais après, ça dépend si vous parlez physiquement parlant ou spirituellement parlant.
Moi, je trouve que dans la danse, ça se mélange, parce qu'il y a...
Oui, bien sûr. Mais ça dépend du thème que vous allez aborder. La transmission, elle est de l'ordre de l'émotion. Mais ça va dépendre du thème que vous allez donner. Et après c'est le travail bien sûr que le chorégraphe va faire et l'interprétation que va en faire le ou les danseurs en même temps, ou les danseuses. Là aussi, c'est très difficile à expliquer. Hein.
Oui, c'est très difficile à expliquer, mais moi, j'adore me mettre dans des problèmes. parce que c'est un entraînement physique, mais c'est pas que ça. C'est
mais
ça
oui,
que je voulais
mais
dire.
Voilà, on
c'est
en revient que... toujours pareil. C'est-à-dire que,
et qui n'est pas un dogme, justement.
Sportif de haut niveau, mais aussi transmettre, là, dans le coup, c'est transmettre une émotion, transmettre sans parler, transmettre le rire, la clownerie, sans parler, le suspense, et danser en même temps, en plus.
En plus, oui, voilà. Avec toute l'exigence que ça demande.
Et quand vous n'avez pas une épée dans les mains aussi, dans
qui
la
est
foulée,
lourde, j'imagine.
Genre Roméo et Juliette et tout ça.
Oui.
Plein de ballets comme ça.
Vous avez un ballet préféré ou...
Ah, alors ou ça, c'est une bonne demandé. Question parce que je peux en parler. J'en parle toujours par rapport aux petits.
Ok.
Un petit enfant, vous dites, c'est moi qui le dis, hein, ça ne regarde que moi. On va pour la première fois aller voir de la danse. La danse, il ne sait pas ce que c'est la danse. Moi, je pense que avant de voir tout type de danse, il faut aller voir un spectacle des danses classiques et pas n'importe lequel. Pas un ballet long parce qu'il va s'ennuyer, pas le Lac des Cygnes, la Belle au Bois Dormant, c'est trop long. Il faut des ballets courts et joyeux. Le prototype, bien sûr, c'est Casse-Noisette, mais celui-là est très connu, d'accord. Oui. Je trouve que vraiment le ballet qu'il faut avoir vu pour les enfants et tous les gens qui n'ont jamais vu de danse classique, c'est La Fille Mal Gardée.
J'ai vu ça sur les sites, La Fille Mal Gardée, je n'avais jamais connu, j'ai lu un peu.
Et ça, c'est vraiment le ballet, là, c'est drôle.
La Fille Mal Gardée.
C'est brillant. Et ça plaira à tout le monde et les gens rient, et un ballet où les gens rient dans la salle, je peux vous dire.
Vous avez un peu l'argument en tête? pourrais nous dire très vrai.
Oui, l'argument est très bête, hein, c'est pas non plus c'est une grande philosophie, et encore que c'est la fille mal gardée, elle est promise à être mariée à un imbécile qui est un idiot, c'est d'ailleurs le rôle, il s'appelle ouais. C'est l'idiot. Que j'ai eu le plaisir de faire au passage.
D'accord.
Voilà. Et puis, elle préfère le prince, bien sûr, le prince charmant. Et donc, le mariage va, bien sûr, à la fin, va être rompu parce que ça finit bien. Elle va se marier avec le belâtre et puis l'idiot du village, entre guillemets, hein, c'est pas dans ce sens-là, c'est l'idiot, c'est le personnage. Il retourne avec sa maman et son père, voilà, en gros.
En gros.
Mais il y a plein de passages. C'est un ballet anglais et qui n'est pas changé. C'est toujours les mêmes chorégraphies partout.
Oui, c'est
alors
c'est
qu'il y a, parfois il y a des ballets qui sont un petit peu
modifiés ou réarrangés,
mais là c'est pas possible.
D'accord. Mmh. Et une dernière question sur l'écriture chorégraphique. Est-ce que vous avez l'habitude de faire, ou vous avez quelqu'un qui le
On revient à la vidéo et tout.
Vous utilisez la vidéo comme moyen de.
Et puis moi je suis pas chorégraphe. On essaie de faire des choses. On ne sait pas, un ami à moi me dit, il n'y a pas de diplôme de chorégraphe. Hein.
C'est un métier qui est très peu, existe de façon peu comme ça.
Voilà, donc...
solitaire.
On n'est pas, mais bon, quelque part, peut-être on l'est. Mais il y a la vidéo maintenant.
La vidéo.
Pour transmettre, ça c'est sûr. Alors après, la transmission, ça passera aussi... par l'image, mais la voix, comme vous disiez tout à l'heure, raconter ce que la personne a voulu dire, parce que parfois, des fois, les danseurs et les danseuses n'interprètent pas vraiment ce que le chorégraphe voulait. Donc, il y a le support maintenant, l'image, mais il peut y avoir aussi la voix du chorégraphe, la personne qui a créé.
Après,
avant, bien sûr, c'était l'écriture... Et puis il y a eu une écriture dont j'ai oublié le nom qui a été inventée pour
Labanne.
Voilà, ouais,
exactement. Labanne ou Bénèche ou Comté.
Et ça c'est compliqué.
Il y en a au minimum 3.
Mais c'est un peu compliqué.
C'est très technique, hein. C'est beaucoup plus difficile que l'écriture de la musique.
Ah, oui, complètement.
Beaucoup plus
j'ai
difficile.
J'ai eu une personne, une élève il y a très longtemps qui s'y était mis, mais bon courage.
Moi, j'attache beaucoup d'importance à cette écriture chorégraphique qui est ce qui nous reste, à part l'oralité dont on avait parlé.
Mais c'est vrai que la facilité de l'image maintenant et l'oral, voilà, les deux...
Les deux vont avec. Bon, malheureusement, Fabrice, le temps radio est limité. Nous devons nous quitter cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été
ces deux semaines
avec nous, en nourrissant notre imaginaire. En partageant des nouvelles façons de voir façon classique de voir la danse. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle surprise, une nouvelle invitée et plein d'autres choses. Je vous souhaite des bons mouvements et soyez heureux.
Alors tu veux faire danseur ?
And push and turn and people tap.
Qu'est-ce que ça te fait au juste ? Lorsque tu danses.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser ?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit ! On se tourne vers le miroir, allez !